avant de continuer, Saint Jean de la Croix, un mot sur Saint Thomas, puisque nous l'avons fêté il n'y a pas longtemps, et que pour nous, nous lisons beaucoup de Saint Thomas, et nous oublions quelquefois le saint. C'est vrai, on lit Saint Thomas. C'est-à-dire comme un devoir, on doit y aller, on doit lire du Saint Thomas. Et on oublie que c'est un saint qui a écrit cela. Et quand vous lisez la petite Thérèse, vous savez que c'est une sainte. Quand vous lisez Marthe, vous savez que c'est une sainte en préparation. Et quand vous lisez Saint Thomas, vous oubliez. C'est vrai. Et je crois que c'est quand même très important de comprendre un peu mieux, que Saint Thomas nous est donné. C'est un don que l'Église nous a fait. C'est pas tellement nous qui l'avons choisi. C'est l'Église qui l'a choisi pour nous. Ça doit nous aider beaucoup, du reste. Hein. Parce que c'est un devoir filial vis-à-vis de l'Église. C'est la pensée d'un saint. Il s'est sanctifié, ça on peut être sûr, en écrivant la somme. Il s'est sanctifié en écrivant ses commentaires scripturaires. Et il nous sanctifie. Vraiment, il nous sanctifie. Il désire nous sanctifier en faisant que notre intelligence, en se mettant à son école, soit de plus en plus donné au Christ, que notre intelligence se convertisse. Je vous ai déjà dit plus d'une fois ce qui m'avait tellement frappé, et chaque fois qu'on lit Saint Thomas, on doit se rappeler ça. Cet étudiant du Saulgeoire dominicain marxiste, fils de marxiste et petit-fils de marxiste, sous-prolétaire, il avait tous les galons. Et il m'a dit: l'Esprit Saint a converti mon cœur, mais s'il me laisse le soin de convertir mon intelligence. Quand on était marxiste, on comprend qu'il faut convertir son intelligence. Mais je crois que c'est vrai pour tous. Nous avons à convertir notre intelligence, c'est-à-dire à faire que notre intelligence scientifique, artistique, de bonne tradition religieuse, doit se convertir. Pour être des théologiens pour l'Église aujourd'hui, à l'école de Saint Thomas. C'est pas si commode de convertir son intelligence. On peut croire que notre intelligence est convertie, parce que de fait, on n'adhère à aucune hérésie. Mais, je vous l'ai déjà dit, notre atmosphère est polluée. Il est pollué de toutes les idéologies modernes. Et quelquefois, on répond aux idéologies modernes en fermant toutes les portes. Alors l'atmosphère est polluée du contraire. Ce fameux ontologisme qu'on dépiste de temps en temps, c'est encore une pollution de l'intelligence. L'ontologisme de droite, l'ontologisme de gauche. Et ça empêche notre intelligence d'être limpide, d'être vraie. Parce que convertir son intelligence, c'est justement faire que notre intelligence ne recherche plus que la vérité. que saint Thomas doit nous apprendre. Et ça, c'est très important. Et on en a tous besoin. Alors, il faut souvent demander à saint Thomas de nous aider à convertir notre intelligence pour que nous puissions découvrir ce qu'est une intelligence vraiment entièrement donnée au Seigneur. Le jour de la fête de saint Thomas, les novices qui ont de temps en temps de bonnes initiatives pour leurs frères aînés avaient mis sur au réfectoire à la place de la soupe avaient mis ce petit fascicule 16 conseils de saint Thomas d'Aquin pour acquérir le trésor de la science. J'espère que vous connaissez tous ça, n'est-ce pas, et que de temps en temps vous le lisez. Tu m'as demandé, Jean, frère très cher dans le Christ. C'est pour vous, voyez. Saint Thomas qui écrit frère pour frère Jean, c'est vraiment pour vous. Comment tu dois étudier pour acquérir le trésor de la science? Voici à cet égard le conseil que je te donne. Je crois que saint Thomas n'a qu'un seul désir, c'est de nous donner le même conseil. Mais c'est un jeune saint Thomas, un très jeune saint Thomas. Entièrement pour nous. Parce qu'on n'a pas le droit de le reproduire sans la permission de la congrégation Saint-Jean. Donc c'est entièrement pour nous. C'est pas. Ah, il est reparti. Il était là. Je m'étais dit. Il m'était dit pour la fête de Saint-Thomas. Et on l'a mis en bas. Faire un peu d'humilité, oui, je croyais que c'était ça, il était là. Moi j'ai eu des distractions toute la matinée. Et il voulait le reprendre ce soir, mais vous voyez. Très bien, j'espère qu'il sera là au-dessus bientôt. Entre dans la mer par les petits ruisseaux, non d'un trait, car c'est par le plus facile qu'il convient d'arriver au plus difficile. Vous voyez le conseil d'Aristote. C'est extraordinaire de voir que saint Thomas donne ça comme conseil. C'est exactement ce que dit Aristote. Il faut toujours commencer par ce qui est le plus proche de nous. Car c'est par le plus facile qu'il convient d'arriver au plus difficile. Alors saint Thomas, poète, s'adapte merveilleusement, entre dans la mer, l'océan de la sagesse, par les petits ruisseaux, non d'un trait. Mais saint Thomas n'est pas pour l'intuition. Il sait bien qu'il n'y en a pas. Alors c'est les petits ruisseaux. Il faut accepter les petits ruisseaux. Saint Thomas demande tout simplement la patience. Il faut du temps. Il faut accepter que ça ne se fasse pas d'un seul coup. Ça met du temps. Il faut du temps pour entrer dans saint Thomas. Sûrement. 2 ans, c'est pas suffisant. C'est bien évident. Je dis ça pour nos chères sœurs. C'est pas suffisant. Si on peut mettre 3 ans, 4 ans. Parce que c'est ça qui va nous distinguer après. Même pour les sœurs, et je dirais surtout pour les sœurs, d'avoir une formation profonde. Un amour de la vérité. On ne fait pas de l'apostolat n'importe comment quand on est sœur de Saint-Jean, même quand on est auprès d'un évêque. Je suis allé là-bas déjeuner face à face en face de Monseigneur Hart, qui m'a dit, il revenait de Rome, visite à Limina. Donc nous en avons vu 2 visites à Limina. Celui de Blois et celui du secteur du Nord. Il m'a dit sa joie d'avoir été à Rome, d'avoir vu 4 fois le Saint-Père. Grosse célébration. Puis visite particulière. Puis visite générale. Puis repas. Un repas très intéressant, m'a-t-il dit. On lui pouvait lui poser toutes des questions. Il répondait pas toujours. aux évêques. Ça, c'est net. Ils les soignent très bien. Ça, c'est... Ils sont très sensibles à ça. Ils étaient très, très heureux. Très, très heureux de ce passage. Ça ne m'étonne pas, ils étaient conquis d'avance. Mais c'est bien. Alors, il m'a dit sa très grande joie d'avoir été là-bas. Il m'a demandé des nouvelles de ses séminaristes. C'est bien évident. Il m'a dit la joie qu'il avait que les frères Toscan étaient à Saint-Jodard. Parce qu'il m'a dit, ils dépendent de moi. Et je suis très heureux qu'ils soient à Saint-Jodard. Pour que, de fait, il y ait de plus en plus le lien entre la communauté Saint-Jean et le diocèse. Alors évidemment, il a tari d'éloges sur les sœurs qui étaient là-bas. Ça, c'était pour lui. Et il reconnaît bien. Il dit, elles sont vraiment de Saint-Jean. Ça me fait plaisir. Elles sont marquées de Saint-Jean. Ça se sent tout de suite. Très bien. J'ai pas trop poussé pour savoir. Qu'est-ce qu'il y avait de vraiment de Saint-Jean? Mais c'est vrai, elles sont vraiment de Saint-Jean, c'est sûr. Par le désir, par le cœur, c'est très heureux que je vienne. Le père Étienne m'arrive régulièrement tous les 15 jours. Et puis elles sont, et Monseigneur a désigné deux bons prêtres. Si elles veulent se confesser entre deux. Et deux prêtres qui m'ont dit, Monseigneur, qui ne peuvent leur faire du bien. Le souci qu'il a, vous voyez, de vraiment faire que les sœurs puissent se sanctifier en disant, pendant tout mon temps que j'étais à Rome, je me disais, je suis le plus heureux de tous les évêques. Parce que j'ai quatre petites sœurs qui prient pour moi. Je crois qu'aucun autre n'a quatre sœurs qui prient pour moi. Et je reviens dans mon diocèse avec une joie énorme de les retrouver. Vous voyez, c'est bien. Donc le cœur de l'évêque est conquis. Il était déjà conquis d'avance, mais il y a un surcroît d'amour. Alors, continuez de prier pour que ça dure, pour que de fait, il y a quelque chose qui... de plus en plus avec lui, parce que c'est bien ça. Entre dans la mer par les petits ruisseaux. Ah, demandez-vous, examen de conscience en face de Saint Thomas, si vous avez découvert votre petit ruisseau. C'est important. Il faut découvrir ce petit ruisseau. Je veux que tu sois lent à parler, lent à te rendre là où l'on parle. C'est le conseil d'Aristote pour le magnanime. Donc Saint Thomas réclame qu'on ait un cœur grand, qu'on soit lent à parler, lent à te rendre là où l'on parle. Garde la pureté de conscience, la limpidité du cœur, la pureté de conscience. Comme c'est important, le don d'intelligence, la béatitude des cœurs purs. Ne cesse pas de te livrer à la méditation. On peut toujours méditer, on ne peut pas toujours contempler, mais on peut toujours méditer. Vous voyez, quand on assiste à un cours de théologie, surtout, on doit méditer. La théologie, c'est une méditation. On doit méditer. On fait une prière avant. C'est pas pour que ce soit simplement avant, mais que le cours de théologie soit une méditation. Surtout quand on voit le mystère du Christ et le mystère de la très sainte Trinité. Alors c'est une méditation spéciale, savante, mais c'est une méditation. Une méditation au service de la parole de Dieu. Pour rentrer plus avant dans le mystère de la parole de Dieu. Vous voyez, je crois ça très important, devenir des êtres qui méditent. Le bœuf muet, hein, Vous savez bien pourquoi on appelait saint Thomas le bœuf muet. C'est Albert le Grand. Parce que saint Thomas méditait tout le temps. Et donc il avait cette capacité qu'on acquiert. On acquiert cet habitus théologique de méditation. Ça s'acquiert, ça. Et dans la mesure où on médite, on devient intelligent pour la parole de Dieu. Et la parole de Dieu prend tout de suite pour nous sa signification. Fréquente avec amour la cellule. Si tu veux être introduit dans le cellier à vin. C'est très beau, ça. Vous voyez, la communication directe entre la cellule et le cellier à vin. Il faut bien comprendre ça. La cellule, là où on médite, et faire de notre cellule un lieu de méditation, un lieu de silence. Et à partir de là, ça devient un cellier à vin. De la méditation, on passe à la contemplation. Quand Dieu le veut, le cellier à vin, c'est le Saint-Esprit seul qui a les clés. Heureusement. C'est le Saint-Esprit seul qui a les clés du cellier à vin. Et nous introduit quand il le veut. Mais quand on médite, on a soif. D'horizon. Vous voyez comme c'est important pour nous de faire que la lecture de saint Thomas devienne une véritable méditation. Pour ça, il faut être très familiarisé avec saint Thomas. Il faut que ça ne nous gêne plus. Le caractère un peu rude, austère, un peu logique de ses argumentations, il faut arriver à les dépasser pour découvrir l'âme de Thomas d'Aquin. C'est tellement important, ça. Montre-toi aimable à tous. Oui, ça, c'est le sourire. Aimable à tous. Ça ne veut pas dire parle à tout le monde, pas du tout. Garde ton silence et sois aimable à tous. Ne dis pas une mine de carême avant le carême. Un carême perpétuel. Non, surtout pas. Et si vous avez des difficultés, des peines, vous ne les montrez pas. Et vous souriez. Ne t'enquiers aucunement des actions d'autrui. Comme c'est sage. Comme c'est sage de ne pas s'enquérir des actions d'autrui. C'est rude, ça. Hein, c'est très rude. Mais on croit quelquefois que c'est la charité fraternelle de questionner ses frères sur des quantités de choses qu'ils font. Et il y a des quantités de choses au point de vue apostolique qu'on n'a pas besoin de communiquer aux autres. Alors, il s'agit justement de ne pas s'enquérir des actions d'autrui. Quand quelqu'un nous parle de ce qu'il fait, très bien, on l'accueille avec amour et on est discret. La discrétion de Sainte Catherine de Sienne, la discrétion d'un Thomas d'Aquin. On est discret dans la mesure où l'on porte au plus intime de notre cœur les secrets de Dieu. C'est ça qui nous rend discret et qui fait que on ne regarde pas trop ce que fait le voisin. Parce que quand on regarde beaucoup ce que fait le voisin, c'est par là qu'il y a des petites crises de jalousie. On sait bien. On se compare et on perd du temps. Ne sois trop familier avec personne, car l'excès de familiarité engendre le mépris et fournit occasion de s'arracher à l'étude. Ça, c'est l'affectivité. L'affectivité passionnelle. Saint Thomas est un être passionné, on le sait, pour avoir écrit sur les passions comme il avait. Pour avoir qu'est-ce que c'était que les passions. Et il est le premier dans ce domaine-là, il est original. D'avoir introduit un traité des passions en théologie, vous savez, je comprends que la Sorbonne trouvait ça d'un mauvais œil, hein, parce que c'est introduit dans le traité de théologie, un traité des passions, et d'insister tellement sur le traité des passions, et tout ça pour mieux connaître Jésus. C'est extraordinaire. Vous voyez, docteur en réalique, hein, docteur des passions. C'est vrai, c'est le docteur angélique, mais c'est le docteur aussi des passions. Et il est le premier à avoir fait ça. Le premier à avoir montré comment les passions ne sont pas mauvaises. Et qu'elles existaient dans le Christ. Et qu'elles étaient entièrement sanctifiées dans le Christ. Les passions peuvent être immédiatement, par l'intermédiaire de la volonté et de la prudence, matière à sanctification. Donc ne sois trop familier avec personne. C'est la passion qui nous rend familier, le concupiscible. Car l'excès de familiarité engendre le mépris. C'est très juste. On ne respecte se change en haine. Et la haine nous fait mépriser les autres. Comme c'est important pour nous, ça, dans une vie commune, ne pas établir des relations au niveau passion. On est tous des êtres passionnés, hein. Autrement, on ne serait pas ici. Mais il faut que nos passions deviennent comme les passions du Christ, des pro-passions. Transformé par notre volonté et surtout par la grâce. Ne te mêle nullement des paroles et des actes des séculiers. Hein? Voyez ça, hein? Ne te mêle nullement des paroles et des actes des séculiers. Un petit examen de conscience. Hein. Fuis par-dessus tout les démarches inutiles. Toutes les démarches inutiles, c'est une distraction. Tout ce qui n'est pas finalisé, tout ce qui n'est pas dans le sens de notre sainteté, c'est très exigeant. Vous voyez, comme l'étude de la théologie doit tout rectifier en nous. Ça, c'est bien. C'est le théologien qui nous montre que nous pouvons vraiment entrer à fond dans la théologie. C'est le but de Saint-Thomas, ça rectifie tout l'homme. Et même les vertus morales sont là présentes. Fuis par-dessus tous les démarches inutiles. Le soir, comme examen de conscience, souvent, demandez-vous toutes les démarches inutiles de la journée. Et demandez-vous dans quelle mesure vous vous êtes mêlé des paroles et des actes des séculiers. Ça ne veut pas dire qu'on les méprise, c'est pas ça du tout. Ça veut dire qu'on sait qu'on est déterminé et finalisé dans un sens très net notre sainteté. Imite la conduite des saints et des hommes de bien. Thomas d'Aquin. Quand il disait ça, il n'avait pas encore son auréole, et donc il pouvait le dire par rapport aux autres. Mais pour nous, c'est vrai, imite la conduite des saints et des hommes de bien. C'est nécessaire que notre imagination soit un peu nourrie. Des choses grandes et belles, c'est pas des choses inutiles. Et donc par quelque chose de beau. C'est important ça. ne regarde pas à celui qui parle, mais tout ce que tu entends de bon, confie-le à ta mémoire. Ah, c'est l'homme du Moyen Âge. L'homme du Moyen Âge, il avait beaucoup moins de livres que nous. Et donc, la mémoire était une chose extrêmement importante. Maintenant, nous avons des livres et nous renvoyons à telle ou telle référence. Tandis qu'au Moyen Âge, on avait tout porté, on portait dans sa mémoire, sa bibliothèque. C'est très bon, du reste, c'est excellent. Parce qu'à ce moment-là, on était attentif. Ce que tu lis et entends, fais en sorte de le comprendre. C'est saint Thomas qui a fait passer tes examens. Alors il sait bien qu'il n'y a rien de plus bête que de répéter sans avoir compris. Alors ce que tu lis et entends, fais en sorte de le comprendre. Nécessité d'assimiler. Tout ce qu'on entend et tout ce qu'on essaie de comprendre, c'est nécessaire. Parce que si on n'assimile pas, ça reste quelque chose d'extérieur. Mais comme c'est pratique, ça. Le soir, essayez de vous rappeler toutes les choses que vous avez lues, que vous n'avez pas compris. Puis vous les notez, et puis vous demandez comment les comprendre. C'est comme ça qu'on progresse. Ce que tu lis et entends, fais en sorte de le comprendre. C'est une nécessité, vous l'avez entendu une fois, vous devez donc le comprendre. Autrement, ça, toi, tu dirais bien ce que tu n'as pas compris, oublie-le, c'est tout. Pas du tout. Pas du tout. Ce que tu lis et entends, fais en sorte de le comprendre. On n'a pas le droit d'entendre et de lire quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est extraordinaire, ça va loin, ça fait ça. C'est une hygiène de la pensée qui est extraordinaire, ça. De comprendre toujours ce qu'on lit et ce qu'on a. Alors, ce qu'on lit dans certains livres, qu'on est incompétent pour le comprendre, on le demande. Assure-toi de tes doutes. Saint Thomas n'est pas pour maintenir les doutes. Mauvais. La suspicion. Et fais effort pour ranger tout ce que tu pourras dans le trésor de l'esprit, comme on remplit un vase. Mais ça, c'est la mémoire. Et de la mémoire, le trésor de l'esprit. Ah, c'est la mémoire spirituelle, ça. Comme on remplit un vase. Ne cherche pas ce qui te dépasse. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit, voyez, parce qu'on pourrait dire c'est contradictoire de ce qu'il a dit précédemment. Non. L'intelligence va très loin. Ça ne la dépasse pas, la métaphysique. Pour saint Thomas, ça ne la dépasse, ça ne dépasse pas. On est fait pour la vérité. Mais on doit comprendre les limites de l'intelligence et accepter que la foi vienne pour dépasser tout ce que notre intelligence ne peut pas par elle-même. Voyez, c'est cela, c'est directement le conseil contre l'orgueil, l'hubris, l'orgueil. L'orgueil fait à tout ce qu'on ne comprend pas et qu'on veut toujours se dépasser et paraître toujours plus qu'on est. Suivant cette marche, tu porteras et produiras tout le temps de ta vie des feuilles et des fruits utiles dans la vigne du Seigneur des armées. Si tu t'attaches à ses conseils, tu pourras atteindre ce que tu désires. Adieu. Gentil comme petite lettre, hein. En dessous de votre porte, recevez ça de saint Thomas. Et comprenez que saint Thomas désire nous éduquer à sa théologie comme service pour l'Église. Et c'est bon de comprendre ça. Je disais tout à l'heure, essayons de découvrir le Saint au-delà de la somme, au-delà de ses écrits et de son œuvre. Parce que ça, c'est important de découvrir le Saint. Qu'est-ce qui caractérise la sainteté de saint Thomas? Ça aussi serait très beau comme petit de voir au plan.
Joseph et
est assez normal, du reste. De voir ce vieillard qui est obligé d'accepter cette séparation. Et alors, devant ses 10 fils, les aînés, ils n'hésitent pas de dire « Si le Benjamin meurt, je n'aurai plus d'enfant. » C'est rude à porter, hein, pour Ruben et les autres. Je n'aurai plus d'enfant. Parce que pour lui, il n'y a que le Benjamin et Joseph. C'est très extraordinaire, ce secret qui est livré dans la très grande souffrance. Là, je crois que ça doit nous aider à comprendre le secret du cœur de Jésus et le secret du cœur de Thomas d'Aquin. Et si vous voulez saisir le secret de ceux qui sont proches de vous, c'est important de saisir un secret. Parce que tant qu'on n'a pas saisi le secret du cœur de Jésus, l'alliance n'est pas plénière. Ça fait bien. Il faut saisir les secrets de celui qui est proche de nous. C'est ça l'important. C'est ça qui nous fait vivre à l'unisson. Tant qu'on n'a pas saisi le secret, on cherche instinctivement quel est son secret. Et le secret du cœur de Jésus, il est livré à la croix au moment de la très grande souffrance. Son amour si extraordinaire pour Marie et pour Jean. Il donne à Jean celle qui est si proche de lui, plus proche du cœur de Jésus que le Benjamin n'était proche de Jacob. Il donne la Benjamine, la plus petite de tous, la plus pauvre de toutes. Il la donne. Il faut une souffrance extraordinaire pour que Jésus nous livre le grand secret de son amour. Il aime tellement Marie qu'il veut l'associer jusqu'au bout à sa pauvreté. C'est ça que Jésus fait. Le secret du cœur du Christ, c'est toujours la pauvreté. C'est un très grand secret. Ça. Et il s'appauvrit de sa mère. Il nous le montre. Il était déjà pauvre, c'est bien évident. Jésus n'a jamais eu un amour exagéré pour Marie. Il a toujours eu un amour divin pour Marie. Mais il faut qu'on le comprenne et que ce soit manifesté et dit. Et ça nous est dit quand Jésus dit à Marie, « Femme, voilà ton fils. » Vous comprenez bien que cette parole, si elle n'était pas vécue dans la très grande pauvreté divine, elle serait cruelle. C'est curieux comme la pauvreté divine, quand elle est sécularisée, devient cruel. Un scandale et une folie. Un fils bien-aimé ne dit pas ça à sa mère comme dernière parole. Femme, voilà ton fils. C'est impossible. Puis Jésus dit cela à Marie. Et c'est une parole messianique, une parole qui réalisatrice de ce qu'elle signifie. Et Jésus détache, oui, réellement, Marie de son cœur pour la donner à Jean. Pour nous la donner. On oublie ça, que chaque fois que Marie nous est donnée, c'est directement de Jésus et du cœur de Jésus qu'elle nous est donnée. Et que Jésus la détache de son cœur pour nous la donner. Femme, voilà ton fils. Et Jésus, en disant ça, réclame du cœur de Marie une très grande pauvreté. Voyez, on fêtera les secrets d'un grand nombre. C'est Marie qui reçoit ce grand secret de Jésus, directement. Et elle est engagée dans ce secret. Et quand on reçoit le secret du pauvre, ça exige de nous d'être pauvres et d'être totalement dépouillés. Pour Marie, c'est une terrible épreuve, cette parole. Puisque pour le cœur de Marie, il n'y a qu'un seul fils. Et Jésus lui dit, « Femme, voilà ton fils. » Et c'est direct. C'est pas cruel, parce que c'est divin. Et que c'est le fruit d'un très grand amour. Vous voyez, l'amour divin va très très loin dans l'exigence de pauvreté. Je crois que ça ne peut pas aller plus loin. Celle que le Père avait donnée à Jésus, celle qui était sa mère, il faut qu'il la donne. Se séparer de sa mère, c'était déjà fait. Mais la donner à Jean, ce n'était pas encore fait. C'est plus dur. Se séparer de sa mère, parce qu'on doit le faire pour réaliser la vocation que Dieu nous demande. Nous avons tous connu cette séparation. Et selon les liens plus ou moins forts avec notre mère, c'était rude. Mais donner sa mère pour qu'elle soit la mère. Saint Thomas était très impressionné par ça. marier Jean. Pour toute l'Église. C'est-à-dire pour tous les disciples bien-aimés. Parce que c'est une parole que seul le disciple bien-aimé peut recevoir. Marie est donnée à tous, mais c'est le disciple bien-aimé qui la reçoit. Et chaque fois que Marie nous est donnée, c'est pour que nous comprenions que nous sommes des disciples bien-aimés. Je crois que c'est vraiment le secret du cœur de Jésus, sous le poids de la souffrance. Jésus n'a pas dit ça avant. Il a dit quand il était crucifié, dernière parole de Jésus à Marie. Alors quel est le secret de Thomas d'Aquin? C'est important pour nous. Thomas d'Aquin nous a jamais dit son secret. Et pourtant, il nous le dit. À travers ses écrits. Il y a l'amour qu'il a pour Marie. C'est un grand secret. Mais je crois que le secret des secrets dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Jean, c'est de découvrir que le don que Jésus fait de Marie à Jean, Saint Thomas recherche toujours les causes. Il ne s'arrête jamais aux effets. Et donc, quand il est en présence d'une parole aussi extraordinaire, il cherche la cause. Et saint Thomas cherchait pourquoi Jésus faisait ça. Qu'est-ce qui cause ce geste, cette parole de Jésus? Père, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. Est-ce que ce n'est pas par là que Jésus glorifie le Père? Il donne à Jean celle que le Père lui avait donnée. Et qu'en faisant cela, il montre au Père comment il a compris que le Père, en lui donnant Marie comme mère, lui faisait le plus grand. Satama nous dit que c'est la plus grande expérience mystique. Que la place mystique la plus élevée, celle du don de sagesse, qui nous fait entrer dans cette procession éternelle du Verbe, dans le sein du Père. Elle a quelque chose d'extraordinaire. Mais vous comprenez bien que la filiation de Jésus à l'égard du Père, elle se manifeste en réalisant le même acte que le Père, ou en prolongeant l'acte du Père. Le Père donne Marie, et Jésus donne Marie, sa mère. Il la donne comme femme, comme mère des vivants. Glorifier le Père et être